talmudique.
Que se passe-t-il derrière cette porte ? Un livre est en train d'être effeuillé. Quelle est l'histoire de ce livre ?
La prise de conscience d'un cri.
Mais j'ai vu entrer des rabbins.
Ils viennent, par petits groupes, faire part de leurs réflexions de lecteurs privilégiés.
Ont-ils lu le livre ?
Ils le lisent.
Interviennent-ils à l'avance pour le plaisir ?
Ils avaient le pressentiment du livre. Ils se sont préparés à l'affronter.
Connaissent-ils les personnages ?
Ils connaissent nos martyrs.
Où se situe le livre ?
Dans le livre.
Qui es-tu ?
Le gardien de la maison.
D'où viens-tu ?
J'ai erré.
Yukel est-il ton ami ?
Je ressemble à Yukel.
Quel est ton destin ?
Ouvrir le livre.
Es-tu dans le livre ?
Ma place est au seuil.
Le vent, dans les terres sans eau de l'été, nous quitte sur une lame ce qui subsiste du ciel. En plusieurs fractures, la terre se précise. La terre demeure stable dans le souffle qui nous dénude. Ici, dans le monde immobile et bleu, j'ai presque atteint ce mur. Le fond du jour est encore devant nous. Le fond embrasé de la terre. Le fond et la surface du front, aplanis par le même souffle. Ce froid. Je me recompose au pied de la façade comme l'air bleu au pied des labours. Rien ne désaltère mon pas.
J'ai remarqué ces situations, à la fois sociales et académiques, où quelqu'un demande à quelqu'un d'autre, ça peut être un professeur à un étudiant, ou un étudiant à un professeur, ou un étudiant à un étudiant, et, Could you elaborate on this thing? Could you elaborate? On this? Voilà, je te donne un mot et go and work, ok? À partir d'un mot, hein, elaborate. Et aujourd'hui encore, des étudiants américains, during my office hours, they just come and say, could you tell me more about this or that? Could you elaborate? Et ça, ça ne se ferait pas en France, par exemple, ça, c'est exclu. Quoi, que quelqu'un dise à quelqu'un, alors, pouvez-vous elaborate? Je ne sais pas comment on dirait ça en français. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins probable. Ça arrive quelquefois, ça arrive dans les interviews radio-télévisées où des journalistes pressés et utilitaires, des journalistes manipulateurs, pensent qu'on peut demander à quelqu'un, parce qu'il est philosophe, parce qu'il est professeur de philosophie, de tout d'un coup parler de l'être. Hein? Comme si on appuyait sur un bouton et puis qu'on avait a ready-made discourse on being or love. Non, I have nothing ready-made. Okay?
Trois voix, trois dates de naissance, 12 avril 1912, 7 mars 1924, 15 juillet 1930. Edmond Jabès, André Duboucher et Jacques Derrida, trois hommes qui ont traversé le XXe siècle. Trois hommes, même si l'un des trois fut officiellement philosophe, dont les œuvres interrogent le langage et la pensée, et en particulier la poésie. Poésie sans doute nécessaire plus que jamais en ces temps algorithmiques évoqués la semaine dernière, qui, même si ces algorithmes incluent une part de hasard, comme nous l'avons souligné, ne produiront jamais l'œuvre unique que l'invention d'un poème peut offrir, faisant dès lors, peut-être, obstacle à la disparition de l'homme, défini ou indéfini, comme ce sujet capable d'invention et d'inouï à jamais renouvelé. Trois hommes au destin proche qui ont croisé leurs écrits dans une écoute critique et généreuse. Trois hommes qui ont trouvé séjour dans la vie d'un lecteur devenu leur disciple, leur ami et leur biographe. Un lecteur qui, porté par le souffle de ses maîtres, se mit lui aussi à écrire de la poésie et des essais, transmettant ainsi sa propre passion pour les mots qui chantent et qui dansent, pour les mots donneur de sang, d'eau et de feu, pour les mots au bol, pour les mots patients, les mots ombre chinoise, les mots passeurs, les mots nuages et les mots à mots, pour reprendre une partie de cette longue liste qu'Edmond Jabès déploya un jour dans un texte intitulé « Soirée de concert » ou « Les mots étrangers ». trois hommes dont le rapport au judaïsme fut tout le long de leur vie à la fois question et silence. Trois hommes qui ne font pas nécessairement l'actualité, mais dont l'importance sont un socle pour la pensée, la littérature et tout simplement la vie de notre temps. Didier Caen, bonjour.
Bonjour.
Didier Caen, le lecteur devenu poète à son tour, c'est vous, à qui l'on doit ainsi une dizaine de recueils de poèmes, dont Déjà vu, qui sort ces jours-ci, et autant d'essais qui portent bien sûr, mais pas seulement, sur Jabès, Duboucher et Derrida. Le lecteur devenu poète à son tour, c'est vous qui nous offrez ces jours-ci un livre aux accents profondément autobiographiques, car vous racontez les rencontres à la fois littéraires, intellectuelles, spirituelles et amicales que vous avez eues avec ces trois écrivains. Un livre qui paraît aux éditions Au bord de l'eau, dans une collection dirigée par Antoine Spire, et qui porte le titre « Trois pères, Jabès, Derrida, Duboucher », un titre qui questionne à triple titre, si je puis dire, pourquoi trois pères et non trois maîtres ? Pourquoi aussi cette inversion de la chronologie en faisant passer Derrida avant Duboucher, alors que Derrida est le plus jeune des trois ? Et pourquoi pas quatre pères, puisque le père de Didier Caen a sans doute aussi beaucoup d'importance dans votre vie ? Est-ce là aussi, en quelque sorte, une réflexion sur la paternité, de manière détournée, sur les pères que l'on a et les pères que l'on peut se choisir ? Le Talmud dit que le maître est appelé père, car il donne aussi la vie à celui à qui il transmet. Didier Caen.
Merci mille fois, Marc-Alain Wachnin, pour ces mots qui me vont droit au cœur, et puis pour ce qu'on a entendu. Je suis très ému, j'ai un petit peu de mal à parler. On a entendu des textes d'Edmond Jabès, on a entendu des textes d'André Duboucher, et on a entendu la voix de Jacques Derrida, cette voix qui portait ce qu'il appelait lui-même cette nostalgérie. On entendait ses accents pieds noirs, qui ne supportaient pas quand il s'entendait. Et on a entendu en même temps cette multiplicité de langues, qui est finalement au cœur du travail des trois auteurs. Alors, pour revenir à votre question de manière plus affinée, je répondrai par une citation. Tout d'abord, une citation de Jabès. « Ne demande pas ton chemin à celui qu'il connaît, mais à celui qui, comme toi, le cherche. » Et ça situe probablement mon propre parcours par rapport au leur. Ils cherchaient leur chemin, ils cherchaient ce qu'ils cherchaient. Et de ce point de vue-là, la leçon est passée. Alors, je les ai beaucoup connus, beaucoup aimés, ils m'ont beaucoup appris, et je crois que le terme de père convient mieux que le terme de maître, d'abord parce qu'il est moins formel, il y a quelque chose de beaucoup plus charnel. J'ai appris d'eux par le contact, j'ai appris d'eux par le regard, j'ai appris d'eux par la voix, j'ai appris d'eux par la lecture, j'ai appris d'eux par l'écriture, ils m'ont appris à écrire. Alors qu'un maître, ce serait plus compliqué, je vous renvoie, Marc-Alain Wachnin, non, nos auditeurs non plus, tout le monde le sait, à l'immense réflexion d'Emmanuel Lévinas, évidemment, sur la distance qu'il y a entre le maître et l'élève, sur la dissymétrie. Alors, vous n'oserez pas dire qu'il y a eu symétrie dans les rapports, bien entendu, mais s'il y a dissymétrie, c'est la dissymétrie du père qui, à la fois, attend les leçons du père et qui en même temps est prêt à désobéir. C'était des maîtres en indiscipline et j'espère avoir fait preuve aussi d'indiscipline. Ne pas être un disciple, mais être beaucoup plus un fils pour beaucoup d'eux. L'ordre, puisque vous me demandiez pourquoi avoir commencé par Jabès, c'est très simple. C'est de très loin celui que j'ai le mieux connu. Le seul dont je peux revendiquer la paternité, je dirais, c'est Edmond Jabès, effectivement. 30 ans partagés avec lui, avec Arlette, sa femme, qui était une femme absolument merveilleuse. Et quand j'y pense, vous voyez, j'ai encore du mal, il est mort en 91, ça fait donc très 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 longtemps maintenant, il est encore présent, et je dirais qu'il est présent à la fois comme une image qui est là, et puis aussi comme un repère à travers ses mots, à travers ses phrases, à travers des citations. Quand je suis perdu, il y a des phrases qui me reviennent. Et je partirai d'une phrase si importante pour moi, qui est un poème de jeunesse, qui s'appelle « L'étranger », quel titre. « Je cherche un homme que je ne connais pas, qui jamais ne fut en moi-même que depuis que je le cherche. » Bien voilà, je me retrouve dans cet homme qui se cherche. Alors ensuite, Derrida, c'était effectivement une star, et je crois que si j'ai réussi à l'approcher et s'il m'a honoré de son amitié, c'est probablement parce que j'étais pas philosophe, c'est probablement parce que j'étais très loin de beaucoup de ceux à qui il a eu des relations aussi très proches, je pense à Jean-Luc Nancy, à Philippe Lacoulabarthe, à d'autres qui ont été si importants pour lui et pour qui il a tant compté, mais probablement que moi, j'étais un petit juif, je sais pas, oui, sûrement, on y reviendra, qui venait un petit peu de nulle part, qui avait fait des études d'économie, qui avait rien à voir avec tout ça, et puis qui, un jour, alors qu'il était passionné par le rock, est tombé dans la littérature et dans la philosophie. Et ce un jour, je peux en dire en quelques mots les circonstances, je voulais écrire. J'aimais le rock, mais j'étais pas musicien. J'étais incapable, je me sentais infirme. Je sais pas pourquoi. Je fais pas de psychanalyse, c'est dommage, j'aurais des choses à dire. Voilà. Et donc, substitut, étant donné que je n'avais aucune vocation pour jouer d'un instrument, j'ai voulu écrire. Et comme je voulais pas écrire comme tout le monde, j'étais déjà probablement un peu orgueilleux, présomptueux, j'ai voulu lire ceux qui, à l'époque, étaient présentés comme des maîtres un peu lointains, comme des maîtres à penser. On est dans les années 60-70. J'ai lu L'écriture et la différence, et j'ai eu l'impression que ce livre était écrit pour moi. J'ai eu l'impression... Je n'ai rien compris. J'étais à l'époque en préparation HEC, j'avais fait un peu de philo, mais vraiment très peu, et tout d'un coup je tombe dans un des livres qu'on dit les plus compliqués de l'époque, c'est pas vrai. Et ce livre m'a complètement parlé, on est très proche de la poésie. J'ai tout entendu, j'ai tout compris, il m'a entièrement pénétré, j'ai été entièrement touché, alors que si on s'en tient strictement au sens... Je n'ai pas compris un traître mot. Et je crois que c'est dans ce rapport que quelque chose s'est tissé avec Jacques Derrida, qu'il m'a, je dirais, adopté comme un fils lointain. N'exagérons pas, encore une fois, autant j'ai une proximité très forte avec Edmond Jabès. J'ai beaucoup aimé Jacques Derrida et qui, je crois, m'a honoré de cette amitié. Mais bon, c'était pas les mêmes rapports qu'avec Edmond. Et puis André Dubouchet, je l'ai connu beaucoup plus tard parce que c'est quelqu'un qui donnait l'impression d'être un peu hautain. C'est quelqu'un, quand on écrivait de la poésie, comme j'ai commencé à le faire à l'époque, qu'on redoutait un peu comme une espèce de figure tutélaire. C'était une immense réflexion sur la poésie. C'est quelqu'un qui écrivait, comme disait-il, pour retrouver une relation perdue. Alors je m'explique. En 1940, il a 16 ans, c'est le moment de l'exode. Sa famille, origine juive, Dubouchet, c'est pas très juif, mais sa mère était des juifs russes. Son père avait des ascendances juives, même si son nom est français, franco-américain, peu importe. Et il est parti. Et il est parti sur les routes de l'Exode avec sa famille, avec le bailli, cet énorme dictionnaire de grec sous le bras, et ils se sont retrouvés aux États-Unis. Et donc, il écrivait pour retrouver une relation perdue avec un rapport à la langue extraordinairement dense. Et cette anecdote, pour terminer cette première réponse beaucoup trop longue, quand il s'est retrouvé aux États-Unis, il a commencé évidemment à pratiquer l'anglais, il a étudié en anglais, il a enseigné en anglais... Et il écrivait en français, il lisait des écrivains français. Il y avait la langue professionnelle qui était l'anglais, il y avait la langue du cœur, il y avait la langue, je dirais, de la mère patrie presque, je ne sais pas si on peut prononcer ces mots, qui était le français. Et il était séparé entre les langues, mais avec une langue qui l'emportait et qui le poussait à écrire toujours davantage.
Alors, réponse... longue, vous dites, mais absolument passionnante, qui répond d'une certaine manière aussi à mes questions que j'allais vous poser. J'ai pensé, quand on commençait par Jabès, citer cette phrase « J'ai quitté une terre qui n'était pas la mienne pour une autre qui, non plus, ne l'est pas. Je me suis réfugié dans un vocable d'encre, ayant le livre pour espace. » Il écrit ceci dans « Un étranger avec sous le bras un livre de petit format ». On a l'impression que tout commence par cette rupture, par cet exil dont je voudrais que vous nous parliez. Et souligner aussi le fait que, pourtant, Jabès écrivait déjà alors qu'il était encore en Égypte.
Voilà, donc il était né en 1912 et il a vécu une vie assez facile dans une famille très bourgeoise du Caire avec un rapport au judaïsme très lâche, je dirais. Il n'était pas pratiquant, pas religieux, même s'il allait de temps en temps à la synagogue parce qu'un de ses grands-pères entretenait une synagogue. Il aimait beaucoup, il était très sensible, dit-il, au chant de la synagogue. Et en même temps, effectivement, il vivait déjà sa propre étrangeté. Il était extrêmement travaillé par son altérité. Probablement que là, quelque chose du judaïsme parlait de manière beaucoup plus souterraine, avec une expérience du désert qui était très forte, et il écrivait de la poésie, une poésie d'ailleurs de qualité souvent, mais qui probablement n'aurait fait de lui qu'un poète parmi d'autres. Et puis en 1957, il a été obligé de fuir l'Égypte tout simplement parce qu'il était juif, et à ce moment-là, ça a totalement bouleversé sa vie. Il a endossé cette condition du juif, qui a été exclu, qui a été obligé de partir, et il s'est mis à réfléchir, et il y a à ce moment-là quelque chose qui vient entièrement traverser son écriture, et là où il y avait une poésie fluide, un rapport aux mots qui était beau, où il y avait une volonté de chanter le monde, il y a quelque chose qui se trame de radicalement différent, à travers aussi évidemment une approche d'Auschwitz et de la Shoah. Bien entendu qu'il était déjà extraordinairement sensible du temps de l'Égypte. Dès l'après-guerre, il avait découvert les camps avec horreur. Et par conséquent, cette langue assez lyrique, qui était au service d'une parole souvent un peu flexible, comme a dit Derrida, a pris une tournure radicalement différente quand il a commencé, quelques années à peine après être arrivé en France, le Livre des questions. Et le Livre des questions, c'est cette immense réflexion sur Auschwitz, sur la Shoah. C'est pas seulement une réflexion. C'est inventer une façon absolument neuve, absolument inédite, de parler sans parler, de parler autrement qu'en parlant, de parler avec des mots qui sont moins et une langue qui n'est plus ou qui est moins souillée que celle qui n'a pas pu empêcher les camps. Et ça, c'est une expérience absolument unique et qui m'a aussi bouleversé. Je reviens à un tout petit bout de la question à laquelle j'ai pas répondu. La première question, mon père. Mon père, effectivement, et c'est une vraie question, j'y ai pensé il y a très peu de temps, le livre, je l'ai écrit il y a un an à peu près, mon père apparaît de manière extrêmement rapide dans le livre, pour expliquer quel était mon rapport familial au judaïsme. Un rapport aussi, comme on dit, celui d'un jeune juif qui a vécu dans une famille assimilée, donc tellement assimilée qu'on fêtait même pas les fêtes, hein, même si je suis totalement juif, hein, ma mère Dreyfus, enfin c'était le nom de son père, mais Morange le nom de sa mère, je vous garantis qu'il n'y a pas la moindre ambiguïté là-dessus. Mais comme je dis, on y reviendra je crois dans le livre, je suis même pas circoncis, on fêtait pas les fêtes à la maison, et on mangeait du jambon. Alors simplement, quand ma mère, ça lui arrivait, faisait un rôti de porc, mon père à ce moment-là allait et disait « Quoi, t'as encore fait du porc ?» Donc il bouffait sans doute ce jambon deux fois par semaine, mais quand il y avait du rôti de porc, là, quand même, il y avait quelque chose qui travaillait, qui se réveillait. Voilà. Et donc, chez Jabès, j'ai retrouvé quelque chose de cette distance par rapport au judaïsme, mais j'ai retrouvé une façon de recomposer, je crois, quelque chose de mon non-judaïsme, de mon judaïsme. J'emploie souvent l'expression « un judaïsme pas très catholique ». Vous savez, vous vous souvenez, puisqu'on parle aussi de Derrida, de ce mot de Derrida à propos du Jabès. En 1972, dans les nouveaux cahiers, Derrida qui écrit « Jabès » qui, comme chacun sait, n'est pas juif.
Alors c'est une question que je vais vous poser par la suite. Ce qui est important dans ce que vous venez de dire, et si j'ai commencé cet entretien sur la question de l'exil et la rupture géographique, c'est qu'elle est commune aux deux autres protagonistes de votre livre, chacun à sa façon, du Boucher avec la France, vous en avez parlé, et Derrida avec l'Algérie, vous en avez aussi parlé, et on se souvient de ce mot qui apparaît chez Derrida, que vous avez cité, la nostalgérie. Est-ce que l'exil et la rupture avec le pays de l'enfance et de l'adolescence ont eu la même importance et le même effet chez Du Boucher et Derrida, Didier Caen ?
Derrida, exil, rupture. N'oublions pas que la première fois qu'il est confronté au judaïsme, c'est en 42, il a 12 ans. Il est viré de l'école en vertu du numerus clausus qui s'était renforcé. Et le proviseur qui lui dit « rentre chez toi petit, tes parents t'expliqueront ». Et donc, il est confronté pour la première fois à l'exclusion dans des conditions pareilles. Et il y a quelque chose qui va se réanimer quand il va partir pour la France pour poursuivre ses études et pour rentrer en Cagne. Donc, une blessure à l'origine, évidemment. Et puis, chez Duboucher, c'est pareil, je l'ai un petit peu évoqué, mais c'est vraiment la guerre qui est au centre même de cet exil, au centre même des ruptures, au centre des cataclysmes qui l'ont miné. Donc, je crois que tous les deux ont inscrit leur livre dans ses blessures.
I was a wing. In heaven blue and on the ocean, soared in the rain, and I was free. It was beautiful. I was a pawn, couldn't make a move, couldn't go nowhere, nowhere to go. Yet I was free. It was beautiful. And if there's one thing could do for you, you'd be a wing in heaven blue. I was a vision.
Patti Smith, Wing, une chanson écrite en hommage à Albert Camus, qui fut celui qui édita le premier livre de Jabez chez Gallimard. Cela vous parle particulièrement, Didier Caen, car je sais que vous êtes très rock, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure. Vous l'étiez particulièrement dans ces années de rencontres avec Jabez, Derrida et Dubouché, au début des années 70. Bob Dylan, bien sûr, les Rolling Stones et bien d'autres. Comment avez-vous fait rencontrer ces deux univers? Le rock serait-il à sa façon rupture et exil? Était-ce votre façon à vous d'avoir fait l'expérience d'un exil et d'une rupture, Didier Caen?
Ah, sûrement. J'étais rock et j'étais pas politique à l'époque. Vous savez, on était soit rock, soit maoïste. Et moi, j'étais rock. Et j'étais rock de manière absolue. Et ça, je crois qu'effectivement, c'était une manière de, d'abord quand même, de faire de la provoque. Hein. J'avais aussi les cheveux jusqu'à la taille ou à peu près. On en discute, hein. Il y a des photos, on n'est pas toujours d'accord avec ma femme, savoir si tu es jusqu'à la taille ou jusqu'au nombril, enfin bon, voilà. Et donc, c'était une manière, effectivement, d'être ailleurs, c'était une manière de me retrouver dans mon univers, et ça, je vous l'ai dit, je suis passé ensuite. Et je crois d'ailleurs, en entendant Patti Smith, je crois savoir quel est le pont, si l'on peut dire, entre les deux. C'est la voix. Quelle voix, Patti Smith! Et à l'intérieur de cette merveilleuse voix de chanteuse, on entend une voix vocale. Il y a une voix orale, une voix vocale. Alors, Patti Smith, c'est aussi merveilleux parce que c'est la poésie. Elle adorait Rimbaud. Évidemment, il y a eu beaucoup de poésie depuis Rimbaud. Je est un autre, ça nous ramène à Jabez. Et Jabez qui a écrit à la suite, évidemment, de Rimbaud, et comme m'entend, comme beaucoup de poètes, le jeu est un autre de Rimbaud. Creuser ce jeu, telle est la tâche qui nous incombe. Et voilà, creuser ce jeu, c'était aussi la tâche qui incombait à ce jeune homme que j'étais, qui avait les cheveux longs et des idées un peu trop courtes, et qui a eu besoin, probablement, de nourrir un petit peu ses idées pour être un peu plus cohérent avec lui-même. J'essayais de trouver la façon d'être un peu plus cohérent avec moi-même. Et avec des parents, il faut le dire, je suis heureux de les saluer, ma mère est morte à 98 ans l'année dernière, mon père donc... 4 ans prisonnier dans les camps, ça l'a sauvé évidemment aussi d'être un prisonnier, un français prisonnier, ça l'a sauvé probablement des camps de la mort, mais ça l'a brisé en même temps. Et donc j'étais aussi dans un univers avec un père dépressif, brisé, il fallait tout reconstruire. J'étais un bon élève et je crois que je portais en partie la tâche aussi de reconstruire un peu de la vie de la famille, quelque chose comme ça, enfin c'est trop vite dit.
Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que Derrida dit un jour de Jabez qu'il n'était pas juif, ce qui est fort surprenant, une boutade philosophique dont vous avez relevé le défi en disant que Jabez était juif non juif. Qu'entendez-vous par là? N'est-ce pas une façon de penser le juif en devenir qu'il revendiquait en quelque sorte? Je pense à ce texte de Jabez que j'aimerais que vous nous lisiez et commentiez et que vous avez cité dans votre livre, Didier Caen.
Je crois, suppose Edmond Jabès, que c'est par l'interrogation que nous créons notre identité. Être juif signifierait donc le devenir peu à peu. Nous ne serions chaque fois que sur le point d'être juif. Cela voudrait dire aussi que nous ne saurions l'être d'une manière constante. L'affirmation « je suis juif » est déjà une régression, un arrêt, une façon de s'endormir dans cette condition. Cela peut paraître excessif, une gageure même. Pour moi, c'est évidemment Jabès qui parle, le judaïsme réside précisément dans cette gageure, à la base de cette quête d'identité qui est en fin de compte le questionnement juif. Il y aurait le doute, la dévorante incertitude. Oui, je crois que c'est une des mille façons d'être juif. Je crois que chacun, et c'est probablement ça aussi qui fait la force et les vertus du judaïsme, peut être juif à sa façon, même si, bien entendu, il y a quand même la loi qui est à respecter. Mais, on a mille façons de respecter la loi une fois qu'elle est écrite. Il y a encore l'interprétation qui est là. Et l'écriture du livre des questions, c'était pour lui une façon d'entretenir cette inquiétude, de la pousser à bout et à chaque fois d'ouvrir de nouveaux horizons. Ce qui me semble absolument extraordinaire dans le livre des questions, c'est que non seulement il y a des questions, et des questions très concrètes, et en même temps, on croit qu'il n'y a pas de réponse. Mais il y a une infinité de réponses, et des réponses qui viennent se compléter, qui viennent s'entrechoquer, qui viennent se bouleverser, et qui continuent à ouvrir l'horizon. Et c'est cette inquiétude qui est faite d'une complicité avec le texte, qui ouvre à un judaïsme probablement autre, à un judaïsme différent. Vous savez, Jabès, je résume, a dit « je suis juif par le parcours ». Et ça veut dire juif parce qu'il s'est, je le rappelle, découvert d'autant plus juif qu'il a été exclu comme juif d'Égypte, mais juif parce que c'est l'écriture du livre aussi, l'étude d'une certaine manière, qui lui permet de se retrouver dans ce qu'il appelait son « incondition juive ». Son incondition juive.
Il est peut-être celui qui a forgé de manière la plus forte ce qu'on a appelé dans les années 70-80 le juif du livre ou le juif de l'écriture. C'est-à-dire peut-être une nouvelle manière d'être juif. Aujourd'hui, on parle du juif de l'étude, mais avant, on parlait de ce rapport au livre, de ce rapport à l'écriture. Et je pense qu'il a été très attentif, sans le savoir. Alors, sa biographie le dit, et il le répète à plusieurs reprises, qu'il a hérité de son propre père, le Talmud de Jérusalem, en français, dans la traduction de Moïse Schwab, qu'il lisait après avoir commencé le livre des questions. Mais je crois que c'est peut-être de manière tout à fait intuitive une réponse à l'ultime commandement des 613 commandements, l'obligation pour chaque personne, pour chaque femme, pour chaque homme, d'écrire son propre livre. L'écriture comme la loi ultime, Didier Cahen.
Oui, et il va si loin, je suis évidemment entièrement d'accord par ce que vous dites. Et une fois de plus, quand je vous écoute, je me dis, vous m'ouvrez aussi à mon propre livre, au livre de Jabès. Est-ce que j'ai le droit à cette confidence? Puisqu'on parle du judaïsme, j'ai commencé à comprendre un tout petit peu le judaïsme, à l'entendre, à le toucher du doigt, ça me semble plus important encore, quand j'ai lu votre merveilleux Le Livre Brûlé, parce que vous parliez dans une langue qui était la mienne.
Merci.
Et ça, ça a été absolument important. Et c'est vrai de Jabès aussi, on a souvent parlé de vous et de votre livre. Et là, peut-être, où vous aurez quelques remontrances à faire à Jabès, c'est évidemment qu'il a poussé l'indiscipline si loin pour prouver son judaïsme qu'il est allé jusqu'à inventer une foule de rabbins. Et des rabbins qui prenaient dans le quotidien. Un des rabbins que j'aime beaucoup, il s'appelle Rabbi Sasson. Et il tient des propos très étonnants sur la naissance. Et en vérité, ses propos ont été tenus exactement au moment de la naissance de sa première petite fille, dont le père s'appelait Jackie Crasson. Donc, le pauvre Jackie Crasson, c'est pas le pauvre, qui évidemment est pas du tout juif, devient Rabbi Sasson, ou devient peut-être l'inspirateur de Rabbi Sasson. Et donc, vous voyez que Jabès, non seulement il invente des rabbins, mais il va trouver dans ses proches qui sont pas juifs, de quoi en faire des juifs qui seront probablement plus juifs que les juifs. Hein, oui. C'est pas rien, ça.
C'est pas rien. Je crois que là, vous touchez à quelque chose d'absolument essentiel qui, si on ne le disait pas, porterait, je dirais, presque atteinte à la pensée et à la vérité de l'œuvre de Jabès. c'est que le mot juif, qui peut être chez Jabès le mot le plus répété avec le mot Dieu, ne signifie pas le juif au sens du juif de l'histoire, le juif biologique. C'est un mot qu'il utilise pour essayer de définir l'humain de manière générale, l'humain de manière universelle. Et on retrouve cette idée chez Lévinas qui dit « attention ». Quand on utilise le terme de juif en littérature et en philosophie, c'est de réfléchir sur les plus justes valeurs que l'on considère être celles de l'homme, celles qui font l'humanité. Et c'est pour cela que l'œuvre de Jabès, bien que parlant de son propre parcours et des juifs, est une œuvre universelle.
Oui, je crois que c'est là qu'on touche aussi à la poésie et que le judaïsme et la poésie ne sont, pour reprendre les termes de Jabès, qu'un même espoir, une même attente, une même usure.
Merci beaucoup Didier Cahen pour cette passionnante conversation que je vous propose de continuer la semaine prochaine autour de ces trois pères. Les lecteurs dont je peux comprendre le désir et l'impatience d'en savoir davantage peuvent d'emblée découvrir votre livre « Trois pères ». Jabès Derrida du Boucher qui paraît aux éditions du Bordelot, un livre qui dit votre passion de la littérature et l'urgence de la poésie sur laquelle nous reviendrons plus précisément la semaine prochaine. Je rappelle aussi votre dernier recueil de poèmes intitulé Déjà vu qui est paru dans une maison d'édition dont j'aime beaucoup le nom qui s'appelle Tarabuste. Merci encore Didier Cahen.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin. À la prise de son aujourd'hui Bruno Morland, à la réalisation, tout en poésie, Dany Journeau. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.